Bonjour à vous tous. Je voudrais commencer mon petit témoignage par remercier du fond du cœur les frères qui me permettent de vous livrer mes sentiments, de vous livrer certaines pages de mon expérience au Mali. Ça ne pouvait pas être autre part qu'ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis revenu fin février, un vendredi soir ici. Le samedi matin, je suis venu faire les fleurs avec Marie ici. Et j'ai vu la statue de la Vierge au-dessus qui protégeait Besançon. Et en fait, la Vierge Marie, elle protège tous les pays. Tous les pays. Et elle protège franchement le Mali. Et elle le protège à travers tous les gens qui donnent de leur temps, tous les gens qui amènent de l'humanisme, tous les gens qui viennent recevoir quelque chose. Et si j'ai voulu témoigner devant vous, c'est pour vous dire plusieurs choses. J'ai peu donné et j'ai énormément reçu. Ça me paraît être un bon message en ce temps de carême, et je vous promets que ça m'a transformé. Tout à l'heure, le Père disait « redynamisation ». Je suis allé au-delà de la redynamisation. Je suis allé dans la dynamisation. J'ai 51 ans. C'est la 8e mission militaire que je faisais de 6 mois ou de 4 mois. La 3e en Afrique. C'est la première fois que je vivais une expérience pareille, tellement forte en richesse humaine. Alors effectivement, j'ai été engagé d'août 2018 à février 2019 avec l'Union Européenne. C'est la première fois que je partais avec l'Union Européenne pour une mission militaire. Donc ce n'était pas une opération, c'était une mission militaire qui consistait à apporter du conseil et de l'entraînement pour les forces armées et les forces de police qui sévissent dans les 5 pays du Sahel, donc la Mauritanie, le Mali, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. Donc c'est plus grand que l'Europe, ce territoire. Donc ça vous montre un petit peu la tâche qu'on a. Alors je vais vous témoigner de 3 choses. Je suis désolé, je suis militaire, alors j'ai fait ça en 3 parties. Ça ne va pas être long, parce que je sais qu'il y a des enfants, et vous inquiétez pas, le message va être clair, je l'espère. Tout d'abord, c'est bien de rappeler que l'Europe est chrétienne. L'Europe est chrétienne. Comme je vous le disais, j'ai été engagé avec une structure européenne. J'avais beaucoup de doutes quant à une laïcité trop prononcée, à une mission militaire trop fermée sur sa chose militaire. Eh bien, c'est exactement le contraire que j'ai vécu. J'étais avec 26 nations. J'avais sous mes ordres 9 nations différentes. Ça allait de néerlandais à polonais, italien, espagnol, allemand, etc., etc. Tout d'abord, je reviens avec un énorme sentiment de fraternité, vraiment de fraternité, au-delà de la fraternité d'armes qu'on peut connaître dans des opérations, mais là vraiment une fraternité et une façon de penser qui est toute tournée vers l'autre. Et ça, on l'oublie. L'Europe, elle nous maintient en paix depuis 80 ans, depuis 70 ans maintenant, hein, et c'est parce que on arrive à partager des choses au-delà de nos propres intérêts. Donc il ne faut pas l'oublier. Et je vous promets que quand on est 6 mois comme ça, les uns sur les autres, parce qu'on était quand même dans des conditions d'opération, on arrive à partager énormément entre nous, partager sur nos différences, mais surtout sur ce qui nous rapproche. Une petite image qui me restera toute ma vie. On était dans un bâtiment, c'est un ancien hôtel. Quand on rentrait dans cet hôtel, d'accord, on était accueillis par le drapeau européen. Immense, il faisait 6 mètres sur 6. Drapeau européen, un beau bleu, et puis des belles étoiles. Et moi, tous les jours, à chaque fois que je rentrais dans ce bâtiment, j'avais ce drapeau, et au centre de ce drapeau, je voyais la Vierge Marie. C'est pour ça que j'ai commencé avec la Vierge Marie. Et donc, l'Europe, elle nous protège, elle nous illumine, d'accord, grâce à son drapeau. Il ne faut pas oublier que les racines de l'Europe sont chrétiennes, et même au fin fond de l'Afrique, à Bamako, d'accord, on voit que l'Europe peut nous illuminer et peut apporter quelque chose à tous les peuples. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est toujours sur l'Europe, c'est que cette fraternité, on l'a vécue au temps de Noël. Le temps de Noël en opération, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on oublie un petit peu la mission, on pense à nos familles, et on se regroupe à travers ce qu'on aime et le temps de Noël. Donc c'est quelque chose de très fort. Eh bien, ce temps-là, je ne l'ai jamais vécu comme ça, je ne l'avais jamais vécu aussi fortement. Le premier dimanche de l'Avent, les protestants, nos frères protestants allemands, ont installé une couronne de l'Avent qui faisait 2 mètres sur 2 mètres dans le hall de l'hôtel, avec des bougies qui faisaient 80 cm de haut. Et tous les dimanches de l'Avent, nous nous sommes rassemblés, chrétiens, non-chrétiens, militaires et non militaires de la mission, et nous avons prié ensemble. Donc c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Vous dites, mince, je suis en mission militaire, et la première chose que je fais le 1er décembre, c'est d'aller prier avant d'aller à la messe ou avant d'aller à l'office. Donc ça, c'est quand même une deuxième chose que je voulais vous dire. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous avons, nous les militaires, la très grande grâce d'avoir des aumôniers militaires qui nous accompagnent en mission. Et bien là, c'était un Allemand et 2 Espagnols. Et tous les dimanches, on avait la messe dans une place improvisée, mais on avait la grande chance d'accéder à l'Eucharistie, d'accord, et à la parole de Dieu. Voilà. Et vous n'imaginez pas la grâce que c'est que de voir un Tchèque venir lire la première lecture en anglais, ensuite un Allemand venir faire le psaume en français, et un Français lire la deuxième lecture en espagnol. C'est quand même quelque chose qui prouve qu'on a tous un même cœur et une même foi dans le Christ. Ça, c'était ma première partie sur l'Europe. Voilà, donc croyez à l'Europe, moi j'en suis maintenant convaincu. Et pourtant, on peut avoir des doutes, hein, mais ce n'est pas ici qu'il faut exprimer ses doutes, il faut exprimer plutôt son espérance, et c'est ce message que je vous donne. Le deuxième message que je voudrais vous donner, c'est, j'ai répété pendant 6 mois, le Mali est magique. Excusez-moi, père, c'est encore mieux que le Togo. C'est encore mieux que le Togo. Il est où ? Ah, il se cache, pardon. C'est pour ça qu'il se cache, en fait. C'est encore mieux que le Togo. Non, c'est pareil, c'est les mêmes. C'est exactement pareil. Et pourquoi c'est magique ? On parlait du désert il y a quelques minutes. D'accord, on est aux portes du désert, on est dans le désert, ici on en sort un peu, on prend de la hauteur. Le Mali, c'est le jardin au sud, un pays tout vert, plein d'eau, plein de forêts, plein de paysages absolument magnifiques. Il y a même un endroit au centre du pays, il s'appelle Sévaré, où il y a des grosses difficultés, c'est Venise, c'est un paysage de rizière, c'est un paysage de rivière, parce que le Niger déborde tout le temps. Et puis vous allez jusqu'à ce qu'on appelle la boucle du Niger, un peu au nord, et juste au bout, à la boucle de, enfin, au nord de cette boucle, Tombouctou Gao, d'accord, vous avez le désert. Et le contraste en avion est saisissant. Au sud, c'est tout vert. Et au nord, c'est le désert. Alors ça me paraissait bien de témoigner là-dessus. Le Mali, il est à la charnière entre un temps dans le désert pour mieux retrouver son jardin. J'écoutais quelque chose cette semaine sur RCF et il disait que de toute manière, avant d'avoir accès au jardin où il y a tous ces fruits et tout ce que la nature peut nous donner, il faut passer dans le désert. C'est bien un des messages du carême, je pense. Je suis désolé, je ne fais pas une homélie, mais quand même je donne mes sentiments. Hein, je dis ce que je pense. Eh bien, j'ai ressenti franchement ça en avion. Elle dit ce contraste entre le désert où il se passe tant de combats, tant de difficultés, les hommes ont du mal à se parler, et puis au sud, un pays très vert où les gens sourient, où les gens vivent ou survivent, mais ils survivent de façon heureuse. Et c'est le troisième message que je vais vous donner. Le Mali est magique parce qu'il permet de réfléchir. Il illumine par ses contrastes. Donc le contraste géographique, je vous en ai parlé, hein, ce jardin et ce désert. Et puis le contraste humain. La pauvreté est leur principale richesse. C'est un des 5 pays les plus pauvres du monde. Eh bien, je peux vous assurer qu'ils sont riches de leur pauvreté. Parce qu'il n'y a absolument aucun misérabilisme dans leur pauvreté. Ils illuminent de leur pauvreté. Ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose. Ils survivent. Mais ils sont toujours souriants. Ils sont toujours accueillants. Ils sont toujours super bien habillés, très colorés. Et ils vivent. Ils vivent. Ils vivent. Et c'est ce principal message que je vous rapporte. C'est qu'il n'y a pas besoin de toutes nos richesses pour pouvoir vivre la vie à 1000%. Je peux vous assurer qu'au moins à Bamako et dans les endroits que j'ai eu la chance d'aller, la grâce d'aller, d'accord, j'ai rencontré des gens qui sont extrêmement vivants et qui nous donnent des leçons de vie à chaque fois qu'on les croise. Il y a bien sûr le contraste religieux, je ne peux pas ne pas en parler. C'est un pays où il y a 95% de musulmans, d'accord, et où il y a 5% de chrétiens. Et contrairement à ce qu'on nous dit en Europe, ici, dans les médias, dans tous ces gens qui commentent et qui n'y connaissent rien, il n'y a pas de guerre entre les chrétiens et les musulmans. Il n'y en a pas. Pas du tout. L'église catholique, l'église chrétienne, peut s'exprimer absolument partout. Il y a des cathédrales, il y a des églises dans de nombreux villages, il y a des prêtres, des saints prêtres, il y a des évêques, hein, et l'église, elle est en vie. Pendant que j'étais là-bas, ils ont fêté leurs 130 ans, 130 ans de l'église du Mali, et il y avait 60 000 personnes qui étaient rassemblées. 60 000 personnes, sur 400 000 chrétiens à peu près. Donc vous faites le ratio, et vous imaginez combien il faudrait qu'on soit de chrétiens, hein, pour avoir cette même force dans la foi, et cette même envie de se rassembler autour du Christ. Alors, enfin, je vais terminer par la grâce du don. La grâce du don. C'est ce que je ramène. Quand je pars en mission, moi, c'est la spécificité de mon engagement en tant qu'officier et chrétien. J'essaye de donner ce que j'ai pour ceux qui doivent recevoir. Et ce coup-ci, eh ben, j'avais presque pas besoin de donner tellement je recevais. Incroyable, incroyable. 51 ans, première fois que ça m'arrive. Je donnais très peu et je recevais tout le temps. Alors, le don, d'abord, il ouvre les visages. Vous recevez toujours un sourire. Toujours un sourire, les yeux dans les yeux. Et ça, c'est très marquant. Et ça fait beaucoup de bien. Et ça dure une seconde, mais c'est absolument extraordinaire. Alors, ça va du petit enfant à qui vous donnez un bonbon lorsque vous êtes arrêté à un feu rouge, parce qu'il y a des feux rouges à Bamako. Et oui, il y a des feux rouges à Bamako. Vous baissez la vitre, d'accord, vous donnez quelques bonbons, pas par charité, pas par sentiment d'être plus puissant que l'enfant à qui vous le donnez, mais par simple don, parce qu'il vous fait un grand sourire, et puis après il vous dit merci. Donc voilà, c'est pas de l'aumône, c'est quelque chose de plus fort. Ensuite, le don, il révèle votre cœur. Le don, il révèle votre cœur. Celui qui donne, il révèle aussi le cœur de celui qui reçoit. Ensuite, j'ai marqué, le don est toujours inattendu. C'est au moment où vous ne pensez pas du tout que vous allez donner quelque chose ou recevoir quelque chose, que paf, ça arrive, et vous savez, les poils qui se dressent, vous avez une petite larme, vous avez la main qui... Enfin, ça tremble un peu, et vous dites, mais comment dans cet endroit et à ce moment-là, je peux recevoir autant alors que je leur ai donné si peu? C'est toujours inattendu. On ne connaît ni l'heure ni le jour. Le don est toujours récompensé. Ouais, toujours. Toujours dans ces pays-là. Vous donnez un peu, ils vous font une fête, mais alors, incroyable. Et ils vous donnent plus. Vous leur donnez de quoi manger pendant 2 jours. Ils vont vous donner du tissu, ils vont vous accueillir dans votre maison, ils vont aller tuer un mouton, ils vont aller faire plein de choses, d'accord? Mais ils vont vous donner quelque chose. Parce qu'ils ont... une fierté qui est très humaine. Ensuite, ça c'est surtout pour nous militaires, le don vous accompagne et vous rend plus fort. Si vous ne donnez pas quelque chose en mission, eh bien vous ne vivez pas votre mission pleinement. Donc le don, ça doit faire partie de notre préparation. Je ne m'adresse pas à des militaires, mais si vous partez quelque part, dites-vous bien que le don, vous devez l'avoir dans votre poche et vous devez le sortir en permanence. Et enfin, eh bien, le don, pour moi, c'est une solution et non un outil. C'est la solution, le don. C'est l'état final à rechercher. Tout est don. Rien n'est dû et tout est don. Rien n'est dû, tout est don. Et si on se met dans cette philosophie de vie, eh bien on reçoit 1000 fois plus que ce qu'on a donné. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Je voulais vous donner tout ça. J'espère que vous en prendrez un petit peu. Je continue à donner parce que c'est en fait ça le message pour moi que je retiens. J'ai donné un peu en Afrique, mais il faut que je vous donne aussi, il faut que je continue à donner. Si ça s'arrête là, ben je ne suis pas sur ma route de chrétien et je vais donc continuer à donner. Et c'est pour ça que je voulais témoigner devant vous, pour vous donner tout ça. Ça vous donne du fruit, je l'espère, hein, pour vos pensées et tout ce que vous allez pouvoir faire au jour le jour. Merci, mon Seigneur, pour tout ce que tu m'offres de vivre. Apprends-moi toujours à apprécier ce que j'ai, ce que je reçois, avant d'en vouloir plus. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour qu'ils soient toujours attentifs à l'autre et ainsi participer humblement à la construction de ton royaume et à ton retour dans la gloire, ainsi soit-il.